Vous êtes de retour dans le retour des sportifs. Très content de l'accueillir en studio. Je suis content de le voir. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Sidney Faureau, comment ça va?
C'est vrai, ça fait un moment, c'est pas vu.
Oui, ça fait un moment.
Puis parce que je passe moins en studio, c'est vrai, c'est de ma faute. Mais là, je profite de l'occasion de ce micro pour venir te voir.
Mais je suis content de te voir. C'est vraiment content. Puis je reviens de 5 semaines de vacances. J'en ai profité pour me reposer. Mais là, je suis là et je suis très content de te parler du CF Montréal. J'étais certain que le CF Montréal serait en mesure d'aller chercher le match samedi au Stade Saputo. Finalement, une égalisation en fin de match, un but à la 87e, verdict nul de 1-1. Mais de manière générale, comment as-tu trouvé la performance du CF Montréal?
Ben, j'admire ta confiance aux compétences du CF Montréal. Moi, j'avais beaucoup de curiosité de savoir si on était capable de transposer ce qu'on a vu d'intéressant durant la Leagues Cup dans la routine de la MLS. La Leagues Cup, c'est un format qui est différent, ouais. On le sait, c'est toujours contre les équipes mexicaines, c'est 3 matchs en 7 jours, et avec aussi l'ambition d'aller chercher le maximum de points possible pour passer à la phase éliminatoire. Et ça crée toujours une espèce d'atmosphère un peu plus écrisante au Stade Saputo, qui fait en sorte que les joueurs, avec un arbitrage qui est beaucoup plus loose, je te dirais, mais en même temps parfois même plus sévère parce qu'il y a plus de cartons rouges qui sont donnés dans la compétition. Tout ça fait un cocktail qui a donné le meilleur visage du CF Montréal. Donc ma question était, est-ce que face à Atlanta, dans le retour de ton petit quotidien, tu étais capable de rester sur ce même niveau de performance? Et il est vrai que pendant un moment, on a vu un Montréal plaisant dans ce qu'ils ont pu présenter, sauf que tu parles de cette 87e minute, c'est un chiffre qui est super important. On n'avait plus de gaz à la fin du côté montréalais. On s'en a senti tout le poids de la Leagues Cup, justement, et des efforts accumulés dans un effectif qui manque cruellement de profondeur, faire en sorte qu'à la fin, c'était quasiment inévitable. Et c'était tellement inévitable que je suis sorti avec le sentiment inverse que, ben, tiens, un point, on va le prendre. Parce que dans les circonstances, ce match-là, vous l'auriez perdu comme 9 fois sur 10 il y a quelques semaines. Et c'est un peu normal, finalement, vu les efforts qu'Atlanta a fait en seconde mi-temps, que ce match soit un verdict nul.
Si on se concentre sur les éléments positifs devant le filet, Thomas Gilliers qui a été fumant pour un deuxième match de suite, est-ce que tu vois une éventuelle possibilité de le voir garder le filet davantage au courant des prochains matchs? Comment tu vois ça se dessiner avec Jonathan Sirois aussi et les rumeurs éventuellement de transfert dans son cas?
Je pense que ce serait une belle épine dans le pied de Nadal qui s'enleverait si Jonathan Sirois se retrouvait à partir en Europe. Parce que là, Jacob, il est d'accord avec moi, parce que tu regardes sur les 2 derniers matchs qu'il a fait, là, Thomas Gilliers. C'est quelque chose. Et je veux rien enlever à Jonathan Sirois, qui a déjà été élu joueur défensif de l'année, qui est un jeune formé chez nous et qui vraiment a ce poste depuis qu'il a pris à James Pantémis. Il tient ce poste. Mais Gilliers, il apporte quelque chose. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est Gilliers ou Gilliers. J'aimerais qu'on me précise de manière définitive si c'est la formation à la chilienne ou à la française.
Ouais, Ali Brett dit Gilliers, mais je joue avec Gilliers.
Ouais, mais il y a quelque chose de spécial. Je ne dis pas que c'est la réincarnation de Thomas Neuer ou quoi que ce soit. Non, Manuel Neuer, pardon. Mais il y a quelque chose de spécial chez lui. Il a une grosse présence, et il a du charisme, il est capable d'intimider un peu les défenseurs, les attaquants adverses. Il a une explosivité, on l'a vu sur le pénalty qu'il a arrêté, notamment en Leagues Cup. Et si c'était pas de lui, en deuxième mi-temps, l'addition aurait été plus salée. Donc moi, je trouve que c'est un gardien qui est très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas avoir 2 numéro 1. Ça, c'est évident. C'est malheureusement le seul poste où il faut que tu choisisses et tu tranches. Il est en prêt, lui, de Bologne. Donc on a beau parler de Jonathan Sirois qui a des rumeurs de transfert, lui, il est officiellement en prêt. Donc tu sais que peut-être qu'en 2026, c'est pas lui qui est dans tes caches. Donc c'est un gros questionnement, mais c'est un gardien qui vraiment amène justement cette saine concurrence et qui permettra peut-être même chez Jonathan Sirois d'aller chercher une coche supplémentaire dans ce qu'il est capable de fournir au CF Montréal.
Le triste constat par contre à l'heure actuelle, c'est que le CF Montréal a signé seulement une victoire au Stade Saputo cette saison. On en parle souvent, mais de l'avantage des équipes à domicile en MLS, souvent on est en mesure d'aller chercher une panoplie de matchs et c'est plus difficile sur les terrains adverses. 3 des 4 victoires du CF Montréal cette année, c'est sur les terrains adverses. Et le constat qu'on fait, c'est que c'est une seule victoire au Stade Saputo cette saison. Est-ce que tu vois un certain revirement de situation? On voit le CF Montréal aller chercher plus de matchs peut-être devant ses partisans?
On se gratte la tête pour comprendre pourquoi exactement le CF Montréal sous-performe à ce point à domicile. Tu sais, toutes les saisons de Montréal commencent avec ces 7-8 matchs sur la route parce que le Stade Olympique est en travaux, parce qu'on n'a pas les infrastructures pour accueillir des matchs en début de saison. Et à chaque fois, on se dit, non, c'est correct, durant l'été, il y aura plein de matchs à domicile, puis il y aura une fiche de 750.
Ouais, parce que je me rappelle, on parle souvent du début de saison, on se dit, hey, combien de matchs, combien de points le CF Montréal? Montréal va aller chercher sur les 6 premiers matchs de la saison.
S'ils en prennent 6, 7, c'est bon, parce que à l'été prochain, vous allez voir, on va tout le remporter. Non, ça se passe pas du tout comme ça, c'est loin d'être un automatisme. Et tu sens cette pression à domicile. À domicile, concrètement, tu dois faire le jeu. C'est toi qui as la responsabilité d'attaquer, de manière générale. Et Montréal a l'air plus à l'aise dans la configuration où on doit être un peu plus passif, je dirais, donc dans une configuration plus défensive, et en transition rapide, lorsqu'on a des contre-attaques, on est capable, en 2-3 passes, de se retrouver dans le dos de la défense adverse, et donc de faire des différences. Là, il y a un vrai problème, parce que aussi à domicile, eux, veux pas, c'est ton contact avec tes partisans. Même si t'as des succès, t'as eu un succès à Houston, t'as eu un succès à New England, t'as eu un succès à New York, très bien, mais devant tes partisans, ce qu'on voit, c'est largement insuffisant. Là, une des seules victoires, c'est une victoire avec Club Leon en tir au but.
Ouais.
On a besoin de plus, beaucoup plus. Et c'est vrai qu'à domicile, pour toutes sortes de raisons, on a parlé de justement l'atmosphère, l'ambiance qui est un peu plus pesante, le fait, comme je disais, tactiquement, de devoir faire le jeu, un peu un manque de réussite, la nature des adversaires aussi. Ça change aussi, on n'a pas non plus les mêmes types d'adversaires à domicile ou à l'extérieur. Tout ça fait en sorte qu'en ce moment, c'est très, très, très faible. Et malheureusement, sans ces victoires à domicile, Montréal ne peut rien espérer, même dans cette fin de saison.
On a parlé d'un point positif avec la performance de Thomas Gilly. On va rester dans le positif. Bel honneur pour Assun Kamara lors du match. Intronisation au mur de la renommée du CF Montréal. Comment est-ce que tu vois cette nomination du côté d'Assun Kamara et les festivités qui ont été autour?
Non, mais c'est bon de le souligner, Jacob. Genre, c'est vrai que l'histoire de ce club a toujours été en grande discussion. Et lorsque tu fais ces gestes très concrets pour renouer avec des anciens, des joueurs qui ont marqué, des joueurs qui représentent énormément dans la communauté foot et sportive, c'est toujours des actes qu'il faut souligner, il faut en parler. C'est bien, c'est franchement, je suis très très fier pour Assun, parce que c'est un bonhomme qui est charmant, qui a tout donné sur le jeu, qui a une histoire aussi très particulière avec même son parcours, où finalement ça a été très très beaucoup de résilience pour se retrouver finalement à Marseille dans un premier temps, lui qui vient de la région parisienne Noisy-le-Sec, et de venir ici, parce que ça aussi c'est un pari, c'est un saut dans l'inconnu. C'est un des rares joueurs, j'en ai déjà parlé un petit peu, qui était avant la MLS. On oublie un petit peu, mais bon voilà, il y a une histoire près 2012, et lui était meilleur joueur en 2011. Il a fait le saut de la NASL jusqu'à la MLS, et après voilà, 7 saisons environ, je pense, plusieurs titres, championnat canadien en 2013-2014. Il y a vraiment des gros souvenirs associés à Assun Kamara, et ce qu'il représente aussi, parce que c'était un caractère, c'était un joueur d'envie, passionné, et je pense que c'est un pro francophone, mais il faut le dire, ouais. Très important, parce que ce lien avec le public, il l'a aussi donné, parce que en dehors de ce qu'il fait du terrain, il crée des connexions, et c'est une personne qui mérite pleinement cet honneur. Je suis obligé de dire que on attend que Nick DeSantis soit aussi honoré.
J'allais dire, est-ce que c'est le prochain?
Mais c'est la question qu'on va toujours se poser, et puis malheureusement, puis genre comme je me trouve plate d'en parler, parce que genre c'est un honneur que Assun mérite à 100 000%. Cette discussion-là, il faut absolument qu'on arrive à passer à autre chose, que Nick DeSantis soit honoré, puis qu'on puisse célébrer l'ensemble des acteurs qui ont permis au CF Montréal et Impact de Montréal d'être ce qu'il est aujourd'hui.
Je suis d'accord avec toi. Puis dans le cas d'Assun Kamara aussi, c'est quelqu'un que tu connais bien, Sid. C'est quelqu'un qui s'est impliqué dans les médias, qui a fait partie des discussions pour parler du CF Montréal, qui là maintenant travaille pour l'organisation. Alors je trouve que c'est une belle marque de reconnaissance, très méritée à l'endroit d'Assun Kamara. Je veux te parler un peu aussi de ce qui s'en vient avec le mercato qui se termine le 21 août prochain, moi que je me trompe. Il reste 10 jours avant la fin du mercato. Est-ce que tu vois des mouvements de personnel chez CF Montréal? Est-ce que tu vois des acquisitions? Les plans en ce moment chez CF Montréal, vers quoi ça se dessine pour la fin du mercato?
De ce qu'on m'avait dit et ce qu'on m'a dit, en fait, ça devait plus rapidement être décidé du côté du CF Montréal. Ça coince sur certains dossiers. Alors, est-ce que ça coince d'un point de vue financier? Est-ce que ça coince d'un point de vue nombre d'années? Est-ce que ça coince d'un point de vue projet de jeu? Il y a toutes sortes de paramètres à prendre en considération dans un cadre où tu as un entraîneur qui est encore intérimaire. On n'en parle pas suffisamment, mais ouais. Ce tag d'intérim du côté Marco Donadel, ça aussi, ça peut jouer. Mais on travaille fort sur des cibles. Et je répète à nouveau donc, mes informations que j'ai. Des cibles offensives qui sont des championnats top 8 européens. Deux joueurs qui sont vraiment ciblés activement par le club. Maintenant, on espère que ça peut se débloquer, parce que tu as besoin de ce mercato. On s'est déjà On a déjà dit qu'on allait pouvoir parler à la presse, et c'est Lucas Saputo qui va faire ce travail-là dans 2 semaines, donc environ vers le 21 août, pour venir. Et là, tu as 10 jours. Et là, ces 10 jours-là, ils sont cruciaux. Parce que ta lettre que t'as envoyée la veille du mercato en disant que, voilà, bref, on s'excuse et on va faire mieux, si elle n'est pas suivie de résultats, et tu ne vas pas me faire croire que Efraim Morales, c'est la raison pour laquelle tu as fait une lettre au public. Il est très, 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 très intéressant, hein, ce jeune défenseur bolivien. Moi, je l'adore.
Ben, on l'a vu avec les réactions des partisans de son club lors de son départ, quand même, il faut le dire. Là.
Beaucoup de potentiel, très bien. Mais c'est vraiment loin des attentes du grand public. Donc là, cette semaine-là va être très importante pour le CF Montréal.
Si tu as parlé de Donadel, de ce tag d'intérim qui le suit toujours. Là, est-ce qu'on commence à se demander si c'est de son côté que ça bloque, si c'est du côté du club qu'on veut encore voir le plan de match qu'il est capable d'établir, ou vraiment, peut-être que ça ne l'intéresse pas comme d'avoir de se défaire de ce tag d'intérim-là?
Ce qui l'intéresse moins, c'est d'avoir une équipe qui n'est pas suffisamment compétitive pour le reste de la compétition et même pour les années suivantes. Donc, il y a aussi... Parce que c'est drôle, souvent, on parle quand lorsqu'il y a ces situations-là qu'on pense que tout le pouvoir est du côté du club. Ah non, il y a aussi un humain, un coach avec de l'ambition qui veut, sans dire des garanties, parce que qui il est vraiment pour avoir des garanties? Il a coaché en Serie A, en Serie C italienne. Voilà, il n'a pas une grande expérience, très bien. Mais on voit quelque chose d'intéressant de plus en plus chez Marco Donadel, et lui veut savoir dans quelle direction ça va. Donc, ça va, c'est dans les deux sens. Évidemment, la décision finale est du côté du club, très bien. Mais non, je suis d'accord avec toi, Jacob. C'est, lui aussi, il se demande, est-ce qu'on va dans la direction que je veux? Est-ce qu'on est capable de sortir aussi les joueurs que je veux? Parce que dans ce cadre de ce comité dont on a un petit peu les contours maintenant sur les décisions, lui aussi, il a son mot à dire sur le type de joueur et de profil qu'il a envie d'avoir dans son effectif. Donc tout ça, c'est lié. Et cette question va assurément être posée lors de la prochaine conférence de presse.
Pour finir sur le dossier CF Montréal... Avec le mercato qui est dans 10 jours, tu l'as mentionné, est-ce que les acquisitions qu'on veut faire via transfert, est-ce qu'on parle de joueurs qui sont établis? Est-ce qu'on parle de jeunes joueurs dont on veut acquérir pour éventuellement revendre à haut prix? Ça se dessine comment?
Plus vieux qu'à l'habitude. C'est ce qu'on m'a confirmé, qu'on aurait des joueurs plus vieux. Morales, dont je parlais tantôt, va rester toujours au cœur du projet montréalais. On va chercher des joueurs à haut potentiel pour faire un Campbell. Voilà, on est capable de faire 2-3 ans à Montréal et ensuite, genre, tu peux être revendu. Ouais. Et la machine, elle tourne comme ça. Sauf qu'on a pris conscience, et on l'a aussi redit hein, durant l'intronisation d'Assoun Camara, que tu as besoin d'expérience, tu as besoin de leadership, tu as besoin de personnes qui sont capables, un peu comme Prince Owusu, de pouvoir livrer la marchandise rapidement.
Mais c'était bien de le voir avec l'insigne de capitaine aussi lors du dernier match.
Oui, c'est pas anodin, parce que c'est un joueur qui a 28 ans, joueur TAM, il a quand même un salaire conséquent, mais il assume et il fait des différences. Et je pense qu'il est quand même apprécié très globalement, à la fois du vestiaire et retournement de situation incroyable du public. C'est fou ce qui s'est passé, je vois, comme je dois ressouligner. Il a été hué individuellement. Des hués, il y en a tout le temps, c'est pas un problème. Mais on parle pas des hués de « on retourne dans les vestiaires » et puis on hue collectivement l'ensemble de l'équipe. Sur une action individuelle, il a été pris à partie par le stade. Et aujourd'hui, c'est l'un des favoris parce qu'il n'a jamais rien lâché. Il travaille très fort sans ballon. Il a marqué beaucoup de buts, oui, effectivement. Mais sa manière de se comporter, c'est ce que tu veux chez les joueurs. Et moi, j'ai entendu notre ami Nathan George dire « moi, j'en prendrais bien 11 au Wosu sur le terrain ». Puis je suis pas mal sûr qu'on est d'accord avec lui dans l'esprit de son analyse.
Je vais te parler du plus gros transfert dans l'histoire de la MLS, celui de Heung-Min Son, que j'ai connu un peu plus à l'époque avec les Spurs de Tottenham dans la première ligue anglaise, mais qui a fait son arrivée avec le LAFC, a joué ses premières minutes, a forcé un penalty qui a mené également à un but. Comment tu trouves ça de voir Heung-Min Son débarquer comme ça avec Los Angeles et de connaître un impact soudain dès ses premières minutes?
Non, on n'est pas dans la même ligue. Ça c'est clair et net. Tu crées un penalty, c'est Donny Bouanga qui le convertit. Le LFC, c'est autre chose. Et de plus en plus, il y a des locomotives dans cette ligue qui vont de plus en plus loin. Et attention aux wagons qui sont derrière parce qu'ils ne sont pas tous attachés à cette locomotive. On a en Heung-Min Son à la fois un joueur qui a encore beaucoup de belles années à donner, parce que ensuite tu vois sa dernière année en première ligue, ça reste un joueur qui est très très compétitif, qui a porté le Tottenham de Ange sur ses épaules. Et on a un joueur qui, d'un point de vue marketing, qui est une énorme réussite au-delà du marché sud-coréen, asiatique. Il y a le marché de la première ligue, comme tu l'as dit, c'est les Spurs, c'est un joueur emblématique, même en Allemagne où il était passé avant. C'est donc déjà le deuxième meilleur vendeur de maillots suite à son annonce de transfert. Donc là, juste dans l'histoire de la ligue, donc transfert record, ça c'est il vient juste de battre la télate d'ailleurs qu'on a vu samedi dernier. Ça s'est établi. Et ensuite, dans les maillots, derrière l'OVNI Messi, évidemment, c'est lui qui a vendu le plus de maillots. Donc, tout de suite, tu vois que LFC, on a réussi à cocher genre, comme plusieurs cases en ayant un joueur qui reste compétitif sportivement, qui a énormément d'expérience, qui vient dans un vestiaire, qui connaît grâce à Hugo Lloris, qui était un ancien de Tottenham, qui va faire en sorte qu'il facilite son intégration, qui va chercher le marché asiatique. Tu sais qu'avec Apple aussi, il y a quand même cette volonté comme un peu commerciale d'aller étendre leur sphère d'influence. Non, tu coches tout. Et puis, forcément, ça t'interroge un petit peu. Tu te grattes la tête, tu te demandes... Bon, ouais. Donc, moi, j'ai entendu parler d'un chiffre de 6 millions de budget pour le transfert du CF Montréal. Il en manquerait encore 20 pour aller chercher
Edmundson. mais tu fais bien d'en mentionner parce que quand tu regardes ça, c'est la Coupe du Monde l'an prochain ici. Au Canada, aux États-Unis, au Mexique.
Attention, parce que je pense que c'est la mairesse de l'FC qui pensait qu'il allait gagner la Coupe du Monde avec...
Je le sais, j'ai vu ça. Mais... Quand tu vois ça, est-ce que tu t'attends à ce que d'autres joueurs d'impact comme ça fassent leur arrivée éventuellement à MLS? Un Antoine Griezmann,
Thomas Müller, qui même s'il n'est pas...
Il vient faire son arrivée quand même à
c'est
Vancouver.
C'est ça, même s'il est en retraite internationale déjà. Je pense que ça braque les projecteurs sur notre territoire, États-Unis, Mexique, Canada. Et forcément, ça donne de l'intérêt. Lorsque tu as la Coupe du Monde des clubs aussi qui se déroule sur le territoire américain, tout ça fait en sorte que tu mets les projecteurs et les gens se disent... Ok, pourquoi pas, donc, comme l'ambiance elle est bonne. Premier commentaire de Son, ah ici il n'y a pas de sifflet. Il sait qu'il y a une ambiance quand même beaucoup plus festive et une passion qui est beaucoup plus contrôlée ici. Et je pense que ça joue chez des joueurs. Maintenant, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite, depuis 2 ans, 3 ans, fait un énorme travail de recruter pas mal de profils qui naturellement
seraient intéressés par la MLS.
Exactement. Donc là, ça devient peut-être un peu plus compétitif, qui eux aussi ils ont la prochaine Coupe du Monde dans les tuyaux, là, l'Arabie Saoudite. Donc, mais du côté américain et du côté canadien, forcément, c'est une bonne nouvelle. Et moi, j'insiste aussi sur Thomas Müller parce que on parle beaucoup de la dualité Montréal-Toronto. D'aller à Vancouver, c'est gros, c'est un des plus gros palmarès du football international. Il va aussi apporter énormément à Vancouver et ça fait des liens. Bon, oui, Davis vient de Vancouver, tout ça, très bien. Mais c'est une très bonne chose pour le football canadien d'avoir ce type de joueur aussi.
Ouais, on a vu Thomas Müller exceller sur la scène internationale et également avec le Bayern Munich aussi. Alors, c'est un joueur quand même, s'il a pris sa retraite internationale, de le voir arriver ici au Canada quand même avec une équipe comme Vancouver, parce qu'habituellement, ces talents-là, on en voit beaucoup arriver ici. Drogba a fait le choix de Montréal à l'époque. Les Jovinko ont fait le choix finalement d'aller à Toronto, mais...
Oui, puis les cyniques, je les vois déjà, mais Rodrigo De Paul, c'est un joueur qui n'est pas en pré-retraite. Il vient là de signer à Miami. Ouais. Et de plus en plus, cette moyenne d'âge sonne... Disons qu'à 36 ans ou 35 ans, il aurait signé, bon, très bien. Mais il n'est pas si vieux que ça, là, Son. Là. 32 ans, il a encore le marché européen à sa disposition, mais il décide de venir ici, peut-être avec des salaires qu'il n'aurait peut-être pas eu ailleurs qu'à l'AFC, très bien. Mais en même temps, il est là et c'est un signe très positif. Tu fais bien de faire la corrélation avec l'arrivée de la Coupe du Monde, mais en même temps, c'est une compétition, la MLS, qui grandit. Et puis, c'est un peu normal qu'elle arrive à ce stade-ci pour attirer l'excellence.
Sid, merci d'être venu en studio. Un gros merci de t'avoir parlé. Super apprécié. Puis, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Super apprécié.
Merci beaucoup, les gars.
Alors voilà, Sidney Fouault pour revenir sur le résultat de 1-1 du CF Montréal et parler également du transfert d'Hugminson. On s'arrête quelques instants. On retourne avec la question du jour concernant le Canadien.